Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Comment évolue le marché du halal en Afrique? Quelles sont les opportunités d'investissement dans le marché du halal dans le continent et surtout, en quoi consiste ce concept? Vous aurez toutes les réponses dans votre rubrique Zoom Express et ce sera dans quelques instants. Et nous reparlerons de l'impact des surtaxes douanières de Donald Trump sur les économies africaines. Il est vrai que les pays du continent sont majoritairement épargnés comparés à la Chine et à d'autres blocs économiques. Trump a annoncé une suspension de 3 mois de certaines de ses mesures. Nous parlerons de tout cela avec notre invité, l'économiste Elkitenge Lubanda, qui nous parlera depuis Kinshasa. Quels sont les principaux sujets de votre émission? Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Avant de développer ces titres, prenons la direction de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où le gouvernement compte sur les secteurs agricoles et de la pêche pour renforcer la production locale et attirer plus d'investissements du secteur privé, mais aussi atteindre la souveraineté alimentaire. C'est ce qu'a fait savoir le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré. Prenons donc la direction d'Abidjan pour en savoir davantage avec notre correspondante sur place, Zainab Dosso.
Surpêche, dépendance aux importations de produits halieutiques, vol de bétail, ce sont entre autres les défis auxquels le secteur des ressources animales et halieutiques est confronté en Côte d'Ivoire. Pour renforcer la production et garantir une production locale durable et compétitive, l'État ivoirien compte sur l'implication du secteur privé, soit une contribution d'investissement de 60% attendue sur 1040 milliards de francs CFA, valeur totale de la politique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. C'est tout l'intérêt de cette deuxième édition des rendez-vous du gouvernement, ici à l'auditorium de la primature. Le ministre Sidi Touré appelle à plus d'engagement du secteur privé pour redynamiser le secteur des ressources animales et halieutiques.
Nous visons à nous sécuriser suffisamment, à avoir cette disponibilité en termes de production locale et c'est ce qui nous met en action. L'État ne peut que mettre en place les outils structurants, faire prendre des décrets pour réguler le secteur de sorte à viabiliser les investissements du secteur privé. Ceci a été fait, je veux dire, à plus de 80%. Donc le reste, c'est un appel au secteur privé, aux Ivoiriens, aux populations vivant en Côte d'Ivoire, à le fait de venir prendre leur part de gâteau, comme si je peux m'exprimer ainsi, dans ce développement de ce secteur qui est inexploré, vierge en investissement. C'est extrêmement important. Je le répète à chaque fois, le secteur des ressources animales et halieutiques, ce sera le futur café-cacao de Côte d'Ivoire.
Selon le bilan dévoilé par le ministre, la production locale de poulet est disponible à 99% et le mouton à 74%. L'attention se porte également sur d'autres filières pour atteindre la souveraineté alimentaire.
Merci à vous, Zainab Dosso, correspondante de Mehdi 1 à Abidjan.
Zoom Express.
Comment évolue le marché du halal en Afrique? Quelles sont les opportunités d'investissement dans ce marché? Et surtout, en quoi consiste justement le halal dans le continent? Vous allez avoir toutes les réponses dans cette rubrique Zoom Express. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mamadou Ndiaye, qui est le fondateur et directeur de Wasabeh. Wasabeh est une application mobile et une communauté qui réunit les professionnels des différents secteurs de l'économie mondiale du halal. Bonjour à vous, Mamadou Ndiaye, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, monsieur Balde, c'est un plaisir de travailler avec vous.
Merci. Avec nous également Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, spécialisée dans les investissements, mais aussi en qui connecte les investisseurs de la diaspora africaine. Bonjour à vous, Moustapha El Bouri.
Bonjour.
Alors, avec vous deux, comme je le disais à l'instant, nous allons parler donc de l'économie du halal. Mais avant cela, j'aimerais quand même poser cette première question à Mamadou Ndiaye pour lui dire, en Afrique, qu'entend-on par l'économie du halal?
L'économie du halal, c'est un secteur de l'économie ou une partie de l'économie, même mondiale, hein, qui comprend la production, la distribution et la vente d'aliments conformes aux principes islamiques, notamment la viande. Quand on parle de halal même, on pense beaucoup à la viande, à la nourriture, mais ça ne reste pas que là. Ça peut concerner des produits laitiers, des produits de la boulangerie, des produits alimentaires, mais c'est vraiment le style de vie, le mode de vie du musulman. Le musulman a besoin, par exemple, d'acheter une maison, a besoin de financer ses activités. Donc, on parlerait ici de la finance islamique. Le musulman a aussi besoin de voyager, de faire du tourisme. Donc, il a besoin d'un tourisme qui est adapté à ses valeurs. Le musulman a besoin de se soigner. Donc, il y a la pharmaceutique la pharmacie halal qui est aussi représentée. Le musulman a besoin de divertissement. Par exemple, que ses enfants regardent des animations ou des films qui ne comportent pas des choses qui sont contraires à ses valeurs éthiques. Donc, il y a cette industrie-là aussi. Donc, ça touche tous les secteurs d'activité. Mm-hmm. On parle de 3 billions ou 4 billions. Ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est une croissance entre 9 et 35% chaque année.
Mm-hmm. Une croissance, donc, entre 9 et 34%, 35%, comme vous le dites. Alors, je pense que c'est intéressant. Hein? Vous avez expliqué donc l'ensemble de ces secteurs donc qu'englobe le business du halal. Alors, vous avez une application Wasabih qui est dans le domaine du halal. Expliquez-nous, parlez-nous davantage de cette application.
Wasabih est partie d'un constat. Mm-hmm. Nous travaillons depuis plusieurs années de la Malaisie avec les plus grands salon professionnel de l'économie du halal. Le plus grand se trouve en Malaisie. Il réunit depuis plus de 20 ans. L'année dernière, le salon a réuni plus de 40 000 personnes venant d'une cinquantaine de pays, plus de 1500 exposants. Nous leur fournissons nos technologies de business matching de B2B pour permettre aux acheteurs de rencontrer les fournisseurs sur site. Après cet événement-là, tout le monde part un peu partout. Il n'y a pas de communication qui permet de continuer les conversations pour développer son business, parce que ce n'est pas avec une rencontre dans un salon qu'on signe un deal. Donc l'idée est de fournir une plateforme technologique qui permettrait aux acheteurs, aux vendeurs, aux partenaires, aux ceux qui cherchent des investissements, de se retrouver sur une plateforme, de réseauter, de se connecter pour développer et faire croître leur business. C'est comme ça que Wasabih est né. Mm-hmm. Wasabih, c'est la communauté professionnelle de l'économie du halal. Mm-hmm. On le verrait un peu comme le LinkedIn de l'économie du halal.
Mm-hmm. Le LinkedIn, donc, de l'économie du halal. Une économie qui certainement progresse en Afrique. Justement, Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, parlez-nous des opportunités de l'investissement halal en Afrique.
Oui, Omar, bon, c'est vrai que pour parler un peu plus sur le continent qui nous intéresse, déjà l'islam, ça, il faut donner quelques chiffres, c'est près de 500 millions de fidèles sur le continent africain. Donc aujourd'hui, ça fait la première religion d'Afrique, bon, ils disent à égalité avec le christianisme, mais bon, je pense qu'elle est un peu plus devant. Et je pense également aussi qu'investir halal ne se limite pas à respecter seulement des valeurs éthiques ou religieuses, c'est aussi, je pense, aujourd'hui un outil très puissant qui permet de promouvoir aussi des pratiques commerciales qui sont aussi socialement responsables. Il y a une croissance vraiment exponentielle de l'économie halal, dans le monde, comme l'a dit Mamadou. Et je pense vraiment que cette croissance, elle offre à l'Afrique vraiment la possibilité d'exploiter vraiment ces avantages qui sont vraiment ces avantages, je dirais, démographiques et culturels à la fois dans ce secteur, et de créer des emplois pour une population qui est, il faut reconnaître, majoritairement jeune. Donc c'est aussi une opportunité. Et je pense que pour tirer parti aussi de ces possibilités qui sont offertes par l'économie halal, je pense que nos gouvernements, les investisseurs aussi privés d'Afrique, on doit investir dans des cadres qui sont, je pense, Mamadou pourra en chiffrer là-dessus, qui sont un peu plus réglementaires, des infrastructures, et aussi sensibiliser aussi la population là-dessus.
Sensibiliser davantage la population. Alors, Mamadou Ndiaye, donc directeur et fondateur de Wasabeh, hein, Wasabeh, je pense que je prononce mieux. Est-ce que dans ces flux mondiaux du business halal, vous nous parlez d'une croissance de 9 à 35% par an. Quelle est la part de croissance ou que représente l'Afrique dans tout cela?
Pas grand-chose, vraiment. L'Afrique, c'est bien dans le sens où il y a tout à faire. Les analyses qui se font souvent avec les pays de l'OCI. La part de l'Afrique est faible, mais elle est en forte croissance. Parce que la population, la jeunesse de la population, et aussi l'attrait qu'a l'Afrique a au niveau de l'investissement, pas que dans le halal, mais dans d'autres secteurs. Les pays africains importent beaucoup. Quand je prends l'exemple du Sénégal, nous importons 80% de ce que nous consommons. Et là, pour faire équilibrer la balance commerciale, vous voyez le potentiel qu'a le Sénégal, par exemple, de pouvoir au lieu d'importer la nourriture transformée, de la faire au Sénégal avec la certification halal. Là, ça positionnerait le Sénégal, je ne sais pas encore concret, parce que ça fait un peu 2 ans qu'on est en train de travailler avec le gouvernement ici, avec les agences gouvernementales, pour que le Sénégal se positionne comme leader ouest-africain dans l'économie halal. Donc, si on prend le cas du Sénégal, avec les ingrédients, ce que demandent les Malaisiens. Les Malaisiens me disent, ramenez-nous des entreprises qui nous amènent, qui font des ingrédients, tout ce qui est matière première. Comme ça, ils le transforment, et si c'est transformé en Malaisie, avec la certification halal Malaisie qui est réputée, donc ils peuvent exporter partout. Donc le Sénégal peut se positionner en mettant en place une industrie de transformation avec la certification halal. Les Malaisiens le font à travers ce qu'on appelle des halal parks, des parcs industriels halal. L'idée, c'est de faire venir des multinationales qui vont produire avec toute la chaîne de la matière première, de la certification, de la formation, de la transformation, de la logistique, tout ça dans un cadre industriel. Tout produit qui sort est halal. Et ça permettrait, par exemple, de cibler non seulement les 400 millions de marchés de l'Afrique de l'Ouest francophone, on va dire, mais aussi cibler l'Europe, l'Amérique. Au lieu d'aller juste en Malaisie pour prendre un produit halal, on pourrait juste, par exemple, le faire au Sénégal, qui a une position stratégique pour sillonner l'Europe et l'Amérique du Nord.
Alors, peut-être une dernière question pour vous. Les marchés africains, vous parlez de l'exemple que vous citiez avec 90% des produits de consommation qui sont importés. Les marchés africains sont plus des pays de consommation des produits halal ou d'exportation des produits du halal? Et surtout, quels sont les pays du continent qui représentent le plus d'opportunités dans ce secteur-là?
Les marchés africains importent le halal. Ils importent un peu de tout, par exemple.
Est-ce que c'est les pays à majorité musulmane ou bien les pays où il y a une communauté musulmane?
Par exemple, si on prend le cas du Nigeria, un grand marché, qui importe selon sur la base de la taille de sa population. Les marchés africains importent en général avec le cadre de l'OCI, ça aide bien à importer facilement des pays de l'OCI qui ont pour beaucoup la certification halal, mais on importe de partout. Par exemple, on importe de France, on importe d'Inde, des produits qui ne sont pas forcément halal ou qui n'ont pas forcément la certification halal. N'empêche que c'est des marchés jusque-là ouverts, pas aussi réglementés qu'en Malaisie. Par exemple, si on prend la Malaisie, là où je vis, et qui sont les leaders du halal, produit n'entre pas. S'il n'est pas halal, s'il n'est pas certifié, s'il n'a pas une autorisation, même des pays Dubaï ou des pays du Golfe. Mmh. Voilà. Donc l'importation est ouverte parce qu'il n'y a pas encore cette réglementation. Mais le potentiel, c'est que, ce que disait Mustapha, c'est que les populations africaines, progressivement, se deviennent de plus en plus sensibilisés, et le travail du gouvernement à les sensibiliser permettra d'augmenter la demande en produits halal, et là, ça permettra aussi à l'offre de pouvoir s'exécuter.
Mmh. En tout cas, c'est à suivre. Alors, une dernière question pour Mustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique. On voit là les opportunités, vous en avez parlé tout à l'heure, on voit ces pays, hein. On parle du Nigeria, entre autres. Je rappelle que c'est la première puissance démographique du continent. Alors, comment faire en sorte de tirer profit des possibilités offerte par l'économie du halal en Afrique, Mustapha El Bouri?
Oui, Omar, après tout ce qu'a cité Mamadou, c'est clair. Aujourd'hui, je pense que les pays d'Afrique, ils doivent vraiment explorer le potentiel de l'économie halal. S'ils explorent ça, ils vont en tirer vraiment des avantages considérables. Je vais donner un exemple très concret. La viande halal qu'on importe en Afrique, elle vient d'un pays qui est le Brésil, qui n'est pas un pays musulman, en fait, voilà. Donc aujourd'hui, le Brésil, c'est le pionnier de l'alimentation halal, qui exporte partout dans le monde, et exporte une grosse partie de la viande qu'on importe aussi en Afrique. Et donc, là-dessus, je pense qu'il y a matière vraiment à développer une transformation locale. Ça, c'est pour l'alimentation. Il y a aussi, on a parlé, c'est vrai, on n'a pas parlé des autres choses, mais il y a le tourisme halal. Aujourd'hui, on va prendre un exemple très concret au Sénégal. Le Magal de Touba. Le Magal de Touba, c'est une manifestation qui rassemble 5 millions de fidèles chaque année. Et c'est un impact économique qui est estimé à plus de 500 millions d'euros. Donc, par contre, voilà, tout ce qui est consommé durant cette manifestation, 90%, comme le citait Mamadou, c'est des produits qui sont importés. Ce n'est pas des produits qui sont transformés, qui sont transformés sur le continent ou importés. On pourrait, je pense, il faut développer les échanges intra-pays. D'accord ? Et je pense qu'en utilisant aussi donc la plateforme qu'a mis en place Mamadou, mais de façon assez prononcée au niveau continental, parce que je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, ça pourrait aussi créer des échanges entre chaque pays et voir ce qui est disponible dans chaque pays. Parce que même le Maroc, on produit des choses halal. Hein. Mmh. Donc il faut développer là-dessus, concentrer là-dessus, capitaliser sur ce qui existe et l'augmenter. Mais je pense que le potentiel est énorme.
Mmh. Un potentiel donc énorme à explorer, à exploiter. Merci à vous deux, Mamadou Ndiaye, fondateur et directeur de Wasabih, une plateforme, une application mobile qui réunit donc les professionnels des différents secteurs de l'économie mondiale du halal. Merci à vous, ainsi qu'à Mustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, qui connecte les investisseurs de la diaspora et des diasporas même africaines entre elles. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Coémergence, l'invité.
Nous avons le plaisir de retrouver l'économiste et spécialiste des économies africaines, El Kitenge Lubanda, qui nous parle depuis Kinshasa. Et avec vous, El Kitenge Lubanda, nous allons évoquer à nouveau l'impact des surtaxes douanières de Donald Trump sur les économies africaines. Il est vrai que les pays du continent sont majoritairement épargnés, comparés à la Chine, par exemple, et à d'autres blocs économiques de la planète. Trump a annoncé, je le rappelle, une suspension de 3 mois de ces mesures afin de négocier. Alors, El Kitenge Lubanda, bonjour à vous. Tout d'abord, aujourd'hui, si vous voyez les différentes taxes annoncées par Trump, peut-on dire que le continent avait été épargné ou est encore épargné?
Il faut savoir que, de manière tout à fait exceptionnelle, Donald Trump est à la recherche des revenus supplémentaires pour alimenter et soutenir son économie. En fait, Donald Trump regarde surtout ses plus grands partenaires, à savoir la Chine, mais également l'Europe. Mais il faut savoir que de toute façon, même si l'Afrique n'exporte pas grand-chose vers les États-Unis, l'Afrique va recevoir le surcoût sur l'économie chinoise et sur l'économie européenne avec lesquelles elle échange beaucoup. Ça sous-entend qu'en fait, les surcoûts de ces deux grands continents, j'ai envie de dire la Chine qui est pour moi un pays continent, et l'Europe, les surcoûts vont être répercutés sur le coût opérationnel des autres activités, en l'occurrence avec l'Afrique. Nous allons payer le prix indirect.
Alors, cela dit, est-ce que ces surtaxes douanières risquent d'avoir un impact sur les exportations africaines vers les États-Unis, sachant que globalement, ce sont les matières premières qui constituent la première source d'exportation du continent?
L'Afrique exporte très peu, ne pèse pas lourd dans l'assiette des États-Unis. Dans la balance commerciale, l'Afrique ne représente pas grand-chose de manière directe. Aujourd'hui, il faut savoir que les plus grands partenaires commerciaux des États-Unis, ce n'est pas du tout l'Afrique. L'Afrique est une source de matières premières de manière directe ou indirecte, et ça ne représente pas grand-chose. Dans la stratégie américaine, c'est la Chine, c'est l'Europe.
Alors, ce sont des explications assez très intéressantes. Cela dit, comment donc va évoluer l'AGOA, qui, je le rappelle, avait donc c'est l'accord qui permet aux pays africains d'exporter leur production agricole vers les États-Unis sans droit de douane. Quel avenir voyez-vous pour l'AGOA?
Donald Trump a juste l'art de faire ce qu'il a envie de faire, pourvu que America Comes First soit respecté, parce que c'est ça sa philosophie. Il est prêt à marcher sur les lois et les règles et les conventions signées. Pour l'instant, il fait du show et pas que, il fait des casses. AGOA doit être considéré comme un chiffon que l'on a mis à la poubelle d'une manière ou d'une autre. Et AGOA, en général, a toujours été un instrument de politique internationale et de géopolitique et d'influence. Et aujourd'hui, ça ne compte pas du tout aux yeux de Donald Trump. Ce qu'il recherche, lui, c'est de l'argent pour l'économie américaine qui est en difficulté. Et il fait du spectacle.
Alors, une dernière question, Elkitenge Lubanda. Est-ce que, franchement ou réellement, est-ce que le marché africain intéresse les États-Unis?
En effet, le marché africain intéresse les États-Unis, pas pour en importer des biens de manière générale, mais pour en importer simplement des produits stratégiques. Et c'est le cas aujourd'hui, par exemple, de la RDC, avec laquelle les États-Unis essayent de faire un deal pour importer des matières premières stratégiques et pouvoir rebalancer son équilibre vis-à-vis de la Chine qui a pris de l'avance. Voilà ce qui intéresse les États-Unis. Et le reste, c'est que du petit jeu. Et bien entendu, ça vient de manière secondaire. La politique globale des États-Unis n'est pas faite en fonction de l'Afrique.
Merci à vous, El Kitenge Lubanda. Je rappelle que vous êtes économiste spécialiste des économies africaines. Vous nous parliez depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.